Bande 2, suite d'interview de monsieur Mme Laberte.
C'est la dernière semaine, mais jusqu'au bout, nous avions un employé d'enregistrement, c'est bien d'enregistrement, je crois, Persson, et qui fonctionnait, lui, sous la vitraille, comme s'il avait été à son bureau à Caen, n'est-ce pas, en temps de paix. Alors tout était consigné, les morts qu'on portait au cimetière de Bruxelles, qu'on inhumait dans des rouleaux de papier huilé, il n'y avait plus de cercueil. Les entrées, les sorties, tout était fait correctement. Alors, toute cette documentation-là, malheureusement, je le dirai tout à l'heure, est disparue. Elle est disparue parce qu'elle a été volée à train par des Allemands qui, en fuyant, nous ont fauché un vélo moteur dans lequel, bêtement, la nuit, j'avais laissé ça dedans. Et tout a été perdu, c'est dommage, il y avait là des archives intéressantes. Alors, cette dernière semaine, nous l'avons dit, a été caractérisée par l'afflux des blessés, deux réfugiés encore du quartier qui commençaient à prendre peur tout de même, et puis alors surtout, l'attitude des SS qui faisait pression pour qu'on évacue les réfugiés qui étaient encore au pied des pauvres. Et vers la... Puis si j'ai pris la date, c'est le 12 juillet, je crois.
Non, le 9 juillet.
9 juillet, l'évacuation ?
Le dimanche, 9 juillet, mais dès le lendemain.
Ah oui, dès le lendemain. Alors, un colonel de SS, il y avait eu des pourparlers, c'est rappelé dans ce bouquin, mais on semble dire que Châtelain a été volontaire pour une mission...
C'est intéressant quand même, l'histoire de Châtelain.
Comment ?
L'histoire de Châtelain
est
intéressante.
Oui. On va
en parler forcément.
Oui, mais Châtelain, je reviens en arrière là. Châtelain qui est arrivé sur ces jours-là, les ponts étant coupés, n'a pas vu passer de l'autre côté.
Châtelain était un résistant. Sur le moment, nous l'ignorions, je dirais qu'on le soupçonnait un peu. Il rentrait d'une mission à Angers, je crois. Il arrive, les ponts coupés, comme bien des gens qui sont trouvés, pas tous des résistants, bien sûr, mais bloqués, restés chez nous.
Oui, alors il a passé ses derniers jours chez nous. Et de fait, un jour, ce n'est pas un soldat qui gesticulait dans une voiture, c'était une Peugeot à toit découvert, c'était un officier qui voulait nous réquisitionner deux ambulanciers.
Tu mélanges là, le fait de Châtelain, tu vas le raconter.
Là-dedans, ils le disent. Alors, si, c'est intéressant. Alors, Châtelain a été volontaire aussitôt.
C'est très important de le dire. Il faut pas que je t'arrête. C'est très important de le dire, seulement, puisque nous sommes sur le dimanche 9, tu signales l'arrivée de Châtelain. Bon. Bien. Mais c'est dès le lendemain que les SS ont voulu vider le centre d'accueil.
C'est après la descente sur le bord de l'Orne.
Absolument pas. C'est dès le lundi.
Mais après, non.
Non, dès le lundi, avant la descente sur le bord de l'Orne.
Ben oui, c'est ça. Ne nous confondons pas. L'évacuation a été...
C'est une seconde qu'on se met une bon.
L'évacuation a été... Oui, alors, il y a un colonel de SS, c'est d'ailleurs ça qui m'a fait chuter dedans, le colonel de SS, un rouquin, qui parlait très bien le français, et venu demander qu'on évacue. Monsieur Dupont, auprès duquel j'étais, a dit, s'est refusé à faire une obligation aux réfugiés qui étaient là de partir. Parce qu'il y avait des risques, en gros, si c'est ça, les gens n'étaient pas très chauds pour prendre la route. Alors, il a voulu leur dire lui-même, il y avait une immense salle où il était encore pleine de réfugiés, il leur a dit, il faut partir. Alors, brouhaha, il a dit d'un ton glacial, vous avez compris ? Silence, effectivement, les gens avaient hélas compris, parce que c'était pas un type rigolo. On sentait parfaitement qu'il allait passer aux actes. Et à partir de ce moment-là, nous avons fini d'évacuer. Alors, avec Dupont, et moi-même, et une des sœurs, je crois, nous avons dressé la liste des gens qui restaient. Et c'est-à-dire une vingtaine de personnes, les équipiers d'urgence, les infirmières, Dupont et sa femme, tous les deux, une ou deux bonnes sœurs, et puis après...
On avait une liste de 20 noms.
Une liste de 20 noms. Ça aussi, je l'avais dans les archives, ça a été perdu.
Non, mais l'Allemand est signé.
Signé, autorisé à rester pour soigner les blessés. Mais alors, obligation de, d'évacuer. Et la liaison a été prise avec Giel, c'est là, par notre ambulancière, Jacqueline Ferté. Et on a vu arriver les ambulances de Giel. Avec des gens nickel, en uniforme, de la Croix-Rouge.
Tu sautes des choses que je trouve qui seraient bonnes à dire. Le vol de notre ambulance, tout ça.
Oui.
Mais non, ça m'ennuie d'ailleurs. On fait du mélange, là, non.
Il faudrait essayer de faire une chronologie.
Oui. On peut pas, laisse un peu arrêter, puis on va se mettre d'accord sur la chronologie et tu vas le dire.
Ça fait que vous avez beaucoup de choses à dire, que les détails, évidemment, vous reviennent en mémoire.
Oui, c'est, moi j'ai une mauvaise mémoire.
Mais non, mais ça n'a pas une mauvaise mémoire, mais fixons la. Vous, ça ne marche pas.
Si.
Bon, ben arrêtez un petit peu. Car nous assistions à la fuite des Allemands, qui s'emparaient de tous les moyens de locomotion, tu te souviens pas de ça? Des vélos, de tout ce qui leur tombait sous la main. Et on disait, il faut surveiller notre ambulance, ils vont finir par nous la faucher. Bon, chose à noter. Alors, nous avons franchi le lundi. Peu à peu, les blessés s'évacuent. Non, c'était celle de Jacqueline Ferté, la deuxième, mais qui n'était pas là en permanence. Alors, avant d'en avoir deux, nous en avons fauché une. Eh bien, nous mélangeons pas trop. Voilà les réfugiés donc partis, tous, nous voilà restés, la liste nominative à 20, avec notre restant de blessés graves, qui est évacué par petits paquets, puisqu'ils nous envoient une ambulance de Giel et une par jour au début. Bon. Alors, là, avec Abba Jane Palma. Alors, dans la nuit. Non, mais tu vas t'en rappeler.
Non,
moi
j'ai pas. Bon, alors. Nous avions deux ambulances, une est volée par les SS.
Oui, ça c'est ça.
Qui se procuraient tous les moyens pour s'en aller.
Voilà. Bon.
Au moins pour certains d'entre eux, parce qu'il y en avait qui étaient acharnés à préparer la lutte. Et c'était la division Adolf Hitler, c'était pas des pires rigolos, quand même. Ce qu'il en restait déjà, parce qu'ils avaient déjà souffert. Enfin, ils étaient assez acharnés. Alors,
on arrive au mercredi.
Nous arrivons mercredi. Alors, on voit arriver une Peugeot avec toit ouvrant. Un officier en sort. Il était debout dans cette Peugeot dépassant du toit. Et en allemand, parce qu'il ne parlait pas français, il demande quelque chose. À ce moment-là, Chatelain, qui parlait l'allemand, se précipite pour faire l'interprète. Et il nous dit à M. Dupont et à moi, il demande deux infirmiers, deux ambulanciers pour aller chercher un blessé allemand entre les lignes qui ne peuvent pas aller chercher parce que les Anglais tirent de l'autre côté du pont. Alors, Chatelain, d'après ce qu'il a dit après coup, il a tout de suite été volontaire. Pour nous, ça ne nous a pas surpris parce qu'il était très courageux. Il a tout de suite été volontaire, il a pris un autre coéquipier, qui s'appelle, je ne sais plus son nom, c'est pas Fontaine.
Fontaine et l'ambulancière étaient De Veille,
et les voilà partis. Alors nous demandions où ils allaient, parce qu'on s'est dit entre les lignes, ça peut être à Mondeville, ça peut être, on ne sait pas. Et quand ils sont venus, c'était en fait au bas de Vaucelles, au pied de le galet Boucheur, qui à l'époque était donné directement sur l'Orne. Il n'y avait pas de route entre l'Orne et le galet Boucheur. Et auprès du pont, il y avait une espèce de petite courette, et les Allemands blessés étaient embusqués là, ils tiraient avec les gens qui tiraient en face. Quand on connaît les lieux, il fallait être assez gonflé pour y aller. Alors Chatelain et l'autre là, ils sont allés debout, ils sont planqués parce qu'on a tiré dessus.
Le blessé est au fond d'un trou de bombe.
Ils sont mis dans un trou de bombe, ils avaient un drapeau de la Croix-Rouge. Il faut dire que nos équipés d'urgence, on les avait équipés de casques blancs et d'une espèce d'uniforme qu'on avait décroché, je ne sais pas comment, qui était marron, je crois. Alors, à un moment donné, ils sont allés debout, tenant leur brancard, carrément, et ils ont découvert là un grand blessé de guerre qui était terriblement décoré, un héros de la guerre de Russie, que les Allemands entendaient récupérer. Alors, ils l'ont ramené. Alors, l'officier a remercié Chatelain et il a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Chatelain lui a dit à ce moment-là, dites à vos hommes qu'ils nous fichent un peu la paix parce qu'ils nous ont déjà volé une ambulance, ça suffit comme ça, on voudrait qu'ils s'arrêtent là. Voilà, ça s'est arrêté là. L'histoire de la liste était déjà arrêtée avant. Bon, on raconté comme ça dans le bouquin. Voilà cette anecdote qui prouve que Châtelain était gonflé.
Parce que il a été pas... tué à quel moment?
Quand il est repassé.
Ah bah, à cet endroit-là, d'ailleurs.
À cet endroit-là, oui, à cet endroit-là.
Alors, on peut voir comment il nous a quittés, oui.
Oui, alors...
Bon, alors, nous avons continué, on est mercredi soir, là.
Mercredi soir, oui.
Alors,
le vendredi.
Alors, la vie continue, les blessés, peu à peu, s'en vont, les ambulanciers de Giel
Les blessés continuent à arriver.
Et les blessés continuent à arriver.
On continue à opérer, on continue à soigner. Avec des moyens précaires.
Et puis alors, jeudi, on est au jeudi, et alors, le vendredi, on arrive au 14 juillet. Les tracasseries des SS.
C'est fêté avec des petits drapeaux tricolores sur les tables, etc. Ils citent là-dedans qu'ils arrivent avec un drapeau déployé dans la salle d'opération où Mabille opère. Il y avait des moments de franche rigolade quand même, en dépit de tout ça.
Ah oui,
il fallait bien.
C'est un des aspects de cette ville-là.
Alors, on arrive au samedi. Le samedi, à notre grand étonnement, c'était le silence. Il faut dire qu'entre deux, n'est-ce pas, il y avait de l'artillerie allemande, je viens quelques jours en arrière, parce que ça, on l'a oublié, de l'artillerie allemande qui tirait de la plaine d'If. Nous avions l'impression pour nous que c'était derrière les terres de Bruxelles par rapport à notre emplacement. Et les obus passaient au-dessus de notre tête, comme pendant la guerre de 14-18, on disait que ça déchirait la soie. Alors, on avait exactement cette impression-là.
Alors nous, on en recevait des dangers.
On entendait les obus passer au-dessus de nos têtes, et puis on les voyait tomber sur le Saint-Étienne, parce que du grenier des petites sœurs des Beaux, c'était un point d'observation remarquable. On a suivi des tas de choses.
On voyait le drapeau, la libération, on voyait le drapeau tricolore déployé sur le lycée Malherbe.
On a vu, par exemple, le bombardement du 7 juillet, moi, sur le nord de Caen, on l'a suivi du grenier. C'était affolant, on voyait les avions piquer, et alors, visiblement, c'était le nord qui était visé. Il y avait des chars avant qui défilaient sur la ligne de crête.
Ah, c'est incroyable, donc
ils préparaient, alors ils canardaient tout ça, n'est-ce pas? C'était intéressant. De même, revenons encore un peu plus en arrière, si vous voulez, dans la première semaine, le clocher de Saint-Pierre, je ne me rappelle plus maintenant, mais je crois que c'est dans la nuit du jeudi au vendredi qu'il a été détruit par des obus de marine de 380. Les anciens de la guerre de 14-18 qui nous entouraient, qui voulaient rassurer les femmes, disaient « ce sont des départs ».
On n'était pas plus affolés que les hommes.
Non, enfin, c'était comme ça, ils disaient « ce sont des départs ». Moi, ça me surprenait beaucoup. L'explosion était brutale. Alors, je monte avec Dupont dans le grenier, on regarde longuement sur Saint-Pierre, on voit effectivement une explosion brutale sur Saint-Pierre.
C'est un
départ, un, deux, puis au bout du deuxième ou du troisième, il y a des éclats qui retombent autour de nous. Alors des 380 de marine de Saint-Pierre, n'est-ce pas? Les éclats retombaient au pied sur des pots. Fantastique.
Je
sais que mon frère, lui, a eu à un moment donné, avec le temps...
Et au réveil, parce que là, on ne s'est pas rendu compte, mais au réveil, quand on a dit le clocher de Saint-Pierre, il
est disparu. Ça correspondait à cette nuit-là, là, on peut l'affirmer, on l'a vu.
Bon. Alors, je reviens. Nous situons maintenant au...
Dernière semaine. Alors, nous sommes le samedi. Le samedi, les SS ont disparu. Le quartier est vide. On se trouve dans un emplacement.
Alors là, c'est le silence total. On ne voit pas un chat.
Il y a une relève qui s'opère.
Regroupés sur des bois, ils sont blessés. Comme mouvement, il y a les ambulanciers de Giel. Ils viennent à tour de rôle. Il faut dire que la route est dangereuse pour des gens qui viennent de loin. Et eux venaient pareil, avec une certaine curiosité, un peu pour voir ce qui se passe. Ils n'avaient qu'une heure, c'était de charger à toute vitesse les gens et puis les remporter. Il nous disait, il y en a un qui dit gentiment mais froidement, même dit, là, on me demandait si on allait vous retrouver là. Ben, je dis, oui, on est toujours là. Et puis, ils repartent. Et il n'y a plus un chat, plus un Allemand, plus un SS dans vos
têtes. Ça fait mieux, il y en a un qui t'a salué militairement, mais ça passe, madame, t'as éclaté de rire.
Ben oui, parce que vous avez levé la main dans ma cour, là, c'était drôle. Non, mais c'est vrai, ça.
Notre climat, nous étions
tous les
c'est curieux. Voilà. Bon, détail. Alors, le samedi, donc, il n'y a plus personne. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que font les jeunes? On se concerte entre nous, avec Châtelain et son équipe, les jeunes qui étaient totalement valides. Moi, j'avais une patte folle, ma femme, et puis les femmes, pour traverser l'Andes sur un pont, c'était pas commode.
Sur un rail?
Sur un rail, oui. Alors, ils sont partis de l'autre côté, à plusieurs, les jeunes. jeunes des Tolles, Châtelain en particulier.
Et des filles des Châtelains, de Tolles, et puis des Queuteville, et puis je ne sais plus lequel.
Bourgeois,
non non, Bourgeois est resté, parce qu'il avait de la famille de l'autre côté.
Oui.
De traverser l'Orne pour aller voir vraiment ce qui se passait, puis Châtelain voulait rentrer.
Alors on avait une certaine naïveté, parce que nous avions convenu que le lendemain matin à 9h, le dimanche, de Lys et Malherbe, il devait nous faire signe avec un drapeau, je ne sais pas quoi, tel signal vous restez, tel signal vous partez. Il fallait le faire.
Oui, alors, parce que chacun de nous conseillait, aussi, il n'y a plus un SS, il n'y a plus rien.
Alors, nous avons.
Voir, nous, on attendait la libération.
Nous avons attendu en vain, là, avec des jumelles, le signal, il n'est pas venu.
C'était naïf.
Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qui est dit ailleurs, quand ils sont passés de notre côté, on a commencé par les coffrets.
Par Châtelain.
Ben si, mais les Anglais qui étaient là, ils ont commencé par
commencé
tout le monde. C'est dit pour d'autres, n'est-ce pas? Ils faisaient
pas confiance, beaucoup de mal à faire reconnaître.
Alors ils se sont fait reconnaître, mais il a fallu 24 heures en fait.
C'est logique.
Il a fallu 24 heures, donc il était trop tard. Alors quand on a vu ça, alors les SS sont venus le dimanche. Les SS sont venus.
Le samedi soir,
ils revenaient. Récupérer le quartier, recommençait à faire la saragonde. N'est-ce pas? Alors nous avons fini d'évacuer tout ce qui nous restait. Nous avions comme perspective, quoi, de recevoir des bombes sur la tête, parce qu'on ne savait pas s'ils n'allaient pas faire comme pour le nord de Caen, on ne le savait pas. Les SS qui nous pourchassaient, plus de travail à faire,
plus de médicaments.
On fait comme nos réfugiés, on prend la route d'évacuation. Alors, on a pris la route d'évacuation, vélo, Dupont avait une voiture, on était allé surtout à la bicyclette. Moi, j'ai hérité d'un vélo moteur parce que j'avais une plaque qui n'était pas fermée. J'avais été mal soigné. Au lieu de me faire mettre ça en place et puis des agrafes, j'avais eu qu'un médecin. Si ma ville avait été là, il m'aurait arrangé ça très bien. Mais quand il est arrivé, c'était trop tard. J'avais eu une piqûre antitétanique, un peu de mercurochrome et puis une autre vertige. Résultat, ça m'a traîné durer des mois. Ma ville a bien nettoyé la plaie à coup de chirurgie, mais ça ne s'est pas arrangé très vite. Alors je pars avec le moteur, à train. On passe une nuit admirable pour la première fois chez un vétérinaire à Mille Dupont. On s'est retrouvé là.
Dans un lit.
Le vélomoteur était dans la cour entouré de murs. On ne pensait pas qu'il allait nous faucher. Le lendemain matin, il n'y avait plus de vélomoteur et toutes les archives sont disparues comme ça, y compris les moyens de l'équipe.
Ils ont fauché tous les moyens de l'eau, monsieur.
Ils ont tout fauché. Alors, nous n'avions plus que des vélos. Nous avons gagné Sainte-Suzanne à bicyclette. Nous avions un rendez-vous, tous nos équipiers. Nous étions donné rendez-vous à Sainte-Suzanne.
On a franchi, on a évité la bataille dans la poste de Chambois, 24 heures après.
Et Sainte-Suzanne, là, on était délivrés par les.
Et vos souvenirs sont très nets et très vivants.
Non, il faut quand même qu'on avoue que nous n'avions pas totalement raison sur l'intérêt d'évacuer à tout prix, parce que. À Lignières-la-Doucelle, nous arrivons un soir dans un village d'un calme parfait. Là, on nous dit, mettez-vous dans l'école. La maîtresse d'école nous dit, mais moi, je m'en vais plus loin, je ne reste pas là.
C'est dans la campagne.
On va à la campagne. Mais vous restez à la campagne, mais si vous n'avez rien ici, ça va tout seul. On ne sait jamais. Alors, le matin, après une bonne nuit passée dans un lit, je mets le nez à la fenêtre. On avait des amis qui étaient dans le banc, qui étaient déjà debout. Je mets le nez à la fenêtre. Un, deux, queues, pense et tire. Le deuxième souffle chaud que j'ai eu l'occasion de sentir, c'est là. Et là, je décrotte. Alors, les fenêtres commencent à tomber. J'ai dit à ma femme, viens ici, dans la mur d'enfance. On s'est mis dans la mur d'enfance avec
l'enfant. Par le grenier qui est
dans. Si la maison casse la figure, non, on va rester là. En fait, en total, j'ai sinistré parce que des vêtements étaient abîmés.
Écoutez, moi, j'avais une microbe, hein, et c'est tout. Et comme on n'avait plus dormir et se laver, parce que c'était un problème, ça, dont je ne vous ai pas parlé, l'eau. Là, on avait les citernes des petites sœurs, je mets ma main, je comprends que ça n'arrête rien. On avait l'eau, grâce aux citernes des petites sœurs des pauvres, mais de l'eau croupissante, on n'avait plus d'eau. Hein. Pas d'électricité, voilà. Bien entendu, rien.
Personne n'a rien eu.
Alors là, on se couche, et moi, j'avais à l'autre bout de la grande salle d'école, ma robe qui était restée sur une chaise, j'avais l'impression que je n'allais jamais pouvoir la rattraper, avec toutes les fenêtres et tout qui dégringolaient dans l'intérieur. Ça paraît un détail, hein. Je me disais,
non, après ce qu'on avait vu, c'était rien, enfin.
C'était rien.
Ça peut arriver.
Moi, je disais, je suis sinistré. J'ai vite couru chercher ma robe.
Alors, après, nous sommes. Dès que nous avons été délivrés par les. Alors, nous voyons les Allemands en travers des haies, les Américains. qui avançait comme à la chasse au lapin, debout, tout debout. Enfin, comme je dis, c'était très, très curieux. Et
il tenait les routes, c'est tout. Et
ah oui, il y a une mobilité fantastique. Alors, immédiatement, nous sommes repartis, nous, par la route alors, par laquelle arrivaient les Américains, nous avons remonté les colonnes américaines. Alors là, impression fantastique. D'un trust en marche, n'est-ce pas, avec des camions qui défilaient, ça commençait à débouler, alors, avec des troupes noires de toutes les couleurs, et des garçons qui nous envoyaient des paquets de cigarettes. Et moi, je conduisais un camion qui n'avait pas de frein, on s'est aperçu dans une descente, j'ai failli avoir un pépin, et il y avait des ambulancières sur le toit, alors ça avait un succès fou, n'est-ce pas. Nous sommes remontés par Saint-Lô, on a vu le désastre de Saint-Lô, c'était épouvantable. Arrivé à Bayeux, il n'y avait pas de dégâts, mais nous sommes tombés sur les Anglais. Alors là, la froideur anglaise nous a un peu réfrigéré, parce que ce n'était pas du tout l'enthousiasme américain. C'est très curieux. Et le 15 août, on était dans Caen. Et l'artillerie allemande tirait encore sur Caen et sur les pauvres. Dans la nuit, nous avons couché, nous avions l'habitude de coucher, les gens étaient à la cave, et vous n'étiez pas à la cave. Oh non. Dans la nuit, il y a encore des obus allemands qui sont tombés dans le coin.
C'était les derniers obus.
On est donc revenus en temps pour entendre les derniers.
On est en possession des lieux.
On avait gros cœur d'être parti. On n'a pas failli ce qu'on devait faire.
Moi, je n'ai pas du tout dans le sens là.
Mais vous savez, ah oui, mais moi, c'était logique. Mais moi, je me disais, on fiche le camp et ça va être libéré d'un jour à l'autre.
Oui, mais enfin, ils n'ont pas bombardé immédiatement sur Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'ils
voulaient? Est-ce qu'on vous rend très mal sur la cohabitation avec les SS pendant cette semaine-là?
On s'en rend compte un petit peu de ce que ça a été.
On restait très libre.
Puis quand on avait l'expérience de Saint-Julien, M. Marie avait été tué, dit on fait pareil, il n'y a pas de problème. En fait, ils l'ont fait, mais un peu plus au sud. Puis ils ont même tiré sur leurs troupes à eux, je crois, sur des Polonais, je ne sais pas, il y a eu des histoires. Oui.
C'est-à-dire que cette cohabitation, elle a joué dans plusieurs cas, je crois. Cette cohabitation avec des Allemands pendant la bataille.
Oui, il y en a eu dans plusieurs endroits. Ah, oui.
Mais je crois bien que c'est pas mon but qu'il y a une autre chose. Ce sont des Anglais qui sont au presbytère et qui sont
chauds. Ah, ça, oui, nous avions les Cabrol auprès de Proarne, je cherche le nom, où il y avait. Ah oui, mais alors là, c'était une cohabitation qui s'ignorait. Les Anglais étaient d'un côté de la ferme et puis les Allemands étaient de l'autre. Et ils s'arrangeaient, ils venaient les uns après les autres chercher le lait.
C'est ça.
Oui, oui.
Mais nous, là, c'était une ferme.
C'était un château, une ferme château.
Oui, c'est ça.
Alors, Cabrol. Oui. Mais nous, la cohabitation n'avait rien d'aussi sympathique, c'est qu'on ne savait jamais qu'est-ce qu'ils germaient dans leur idée, n'est-ce pas? Ils étaient vraiment, oui, ils étaient comme des enragés.
C'est
là.
Ça, tout à fait.
Oui, tout à fait.
On a vu.
Voilà,
je crois que c'est passionnant. Alors, peut-être, j'ai envie d'être revenu pour mériter.